Il y a des places en avant. Alors bonsoir. Donc pour ceux qui étaient là toute la journée, nous continuons. Et pour ceux qui se joignent à nous pour la conférence Urba 2015, bienvenue ce soir. Est-ce que vous continuez à filmer pour la soirée, c'est ça? Ok. Alors donc bienvenue pour cette conférence Urba qui clôture le colloque fort intéressant que nous avons vécu aujourd'hui. La conférencière de ce soir, vous la connaissez, vous l'avez eue au micro un peu toute la journée, c'est Priscilla Hanagyan, et la conférence a été organisée pour qu'elle puisse traiter d'un sujet qui était son objet de recherche, où elle va pouvoir faire certaines, évidemment ça va porter sur Bruxelles, mais elle va pouvoir faire certaines correspondances avec des sujets qui sont traités actuellement à Montréal. Alors je rappelle que l'objectif des conférences Urba 2015, ce sont des plateformes de réflexion sur les conditions de réussite de l'avenir. Hein? Donc vous êtes habitués à venir aux conférences Urba, et je pense que c'est un des sujets, le sujet qu'elle va traiter, un des sujets qui est particulièrement intéressant et puis qui est particulièrement aussi objet de réflexion par les temps qui courent. Donc, le titre de sa conférence, la densification à partir des pôles de développement à Bruxelles vers une spatialisation intelligente, inclusive et durable de la mobilité, elle va le traiter, elle va traiter ce sujet-là en partant de l'expérience du plan de la région de Bruxelles-Capitale, son plan de régional de développement durable. Et on a fait ressortir trois éléments qu'elle va traiter principalement, et vous allez pouvoir faire vous-même les correspondances avec des sujets qui sont actuellement discutés et traités à Montréal. Elle va s'intéresser à trois innovations qui démystifient la densification. Et elle va les résumer autour de trois grands sujets. La première concerne les pôles de développement favorisant un développement urbain multipolaire. Pour tous ceux qui travaillent actuellement autour du PMAD, le développement multipolaire de la métropole de Montréal est un des sujets qui va être traité ardemment, on va dire pas ardemment, avec beaucoup de passion, au cours des prochaines années et probablement lors de l'Agora métropolitaine 2015. Le deuxième sujet qu'elle va traiter va thématiser la densité selon les profils socio-économiques et culturels des quartiers. On en a parlé aujourd'hui. On a des correspondances possibles avec Montréal. Puis la troisième vise la cohabitation des centralités métropolitaines avec le tissu résidentiel. Et elle va essayer de ramasser tout ça autour de la région de Bruxelles. Ma collègue Priscilla est architecte et urbaniste. Elle est docteur en art de bâtir et urbanisme de UCLA. Elle est professeure au département d'études urbaines et touristiques. Elle a été professeure à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université de Louvain. Elle a réalisé des projets d'architecture et d'urbanisme au Brésil, a enseigné à l'université Estadual Paulista, l'Université catholique de Louvain, et maintenant à l'UQAM. Et elle s'intéresse principalement, entre autres sujets, à la planification stratégique, au projet urbain et à la densification urbaine. Donc je lui cède tout de suite la parole, et la conférence va se dérouler comme d'habitude. Elle a 50 minutes à 60 minutes pour faire sa présentation. Et ensuite, il y a une période d'échange et de questions. Et ensuite, vous êtes invité à un cocktail qui va vous être servi à l'arrière. Alors merci, à tout à l'heure.
« Alors bonsoir à tous. Merci beaucoup Florence, à la fois pour l'invitation et aussi pour cette introduction. Donc je préciserai juste que je vais parler surtout sur la densité, donc c'est les pôles de développement et la densification plutôt que la mobilité, mais évidemment que la mobilité est associée à la densité, donc ça sera un sujet qui reviendra. Alors la notion de densification, elle est devenue le fer de lance, que ça soit en Europe ou en Amérique du Nord. On entend beaucoup parler, que ça soit par les médias, mais que ça soit également par les principes d'aménagement et de développement. Donc on a parlé du PMAD, le schéma d'agglomération de la ville de Montréal, et on a eu l'occasion également ce matin et cet après-midi midi de voir les correspondants par rapport à la région bruxelloise. Alors, on présente souvent la densification comme étant garante de la qualité de vie, mais garante également d'une relance économique. Donc, d'abord, la question qu'on devrait se poser, est-ce que la densification, elle est vraiment garante de ces deux facteurs-là, ces deux retombées, donc de régénération urbaine à la fois sociale et économique? Et si oui, dans quelle mesure les pôles de développement peuvent contribuer à faire cohabiter la production résidentielle avec la restructuration des transports, mais aussi les activités économiques? Et là, on comprend les activités économiques au sens large du terme, notamment les activités qui souvent sont évincées de la ville, notamment les activités plus productives ou plus lourdes, notamment liées à l'industrie. Alors, pour essayer de répondre à cette interrogation, je vais présenter mon propos en trois temps. Donc, d'abord, je vais vous présenter brièvement la notion de densité et les différents discours, en tout cas, je vais le rappeler parce que je l'ai fait ce matin pour le colloque, les discours qui ont promu, en tout cas, ont contribué à promouvoir le débat sur la densification urbaine. Ensuite, je donnerai quelques exemples de comparaison par rapport à ces différents discours entre des projets concrets à Bruxelles et des projets à Montréal. Dans un deuxième temps, je m'attarderai sur la question de la région de Bruxelles-Capitale, qui est l'objet de ma conférence, donc à partir des caractéristiques de la production résidentielle récente, dans la mesure où on sait que la densification, ce n'est pas simplement du logement, mais en tout cas à Bruxelles, la production résidentielle a fortement contribué à amorcer donc différentes politiques de développement urbain. Et enfin, en troisième partie, je discuterai donc de la densification urbaine et de la régénération urbaine à partir des pôles de développement à Bruxelles, à la fois les défis, donc les complexités qui seront associées à ces différents objectifs, mais aussi les perspectives qu'on peut avoir en réfléchissant à une armature ou une organisation spatiale plutôt multipolaire. Alors, commençons par la notion de densification. Donc, si on regarde dans le dictionnaire, donc regardez Larousse, la notion de densification est synonyme de compactage, alourdissement, épaississement, opacification, apaisantissement, entassement, noircissement. Donc, c'est pas étonnant que dans l'imaginaire de tout le monde, à la fois des planificateurs, des aménageurs, mais aussi de la société civile, la densification ne soit pas systématiquement associée à des connotations positives. Mais la densification, ça veut dire aussi, très sommairement, toujours selon le dictionnaire Larousse, augmenter la densité, donc c'est-à-dire augmenter le ratio entre un nombre d'éléments et un espace donné. Alors, on a vu ce matin, lors du colloque, la difficulté, justement, d'établir l'échelle de référence. Est-ce qu'on mesure cette densité à partir de la grande région urbaine? Est-ce qu'on la mesure à partir de la ville, d'un secteur, d'un quartier, d'un îlot, ou voire même d'une parcelle, hein, surtout pour les architectes qui vont plutôt s'intéresser à cette échelle-là. Donc, d'une part, l'échelle qui est prise en compte. D'autre part, comment cette densité organise le système de centralité dans la ville, donc justement, est-ce que c'est plutôt linéaire, multipolaire, radioconcentrique ou autre, ou diffus? Notamment la question des typologies. Donc on le sait également qu'avec une même densité, donc un même chiffre de logements à l'hectare, on peut avoir des typologies architecturales et urbanistiques très différentes. Donc ça, c'est un exemple classique qu'on reprend à toute conférence quand on parle de la densité. Donc on montre qu'avec une même, un même chiffre de logement à l'hectare, on peut avoir à la fois une tour, on peut avoir du moyen, donc des typologies qui vont R plus 3, R plus 4, donc rez-de-chaussée plus 4 étages, ou bien on peut avoir encore du pavillonnaire. Donc tout ce rapport entre la partie, je dirais, plus construite de l'îlot, de la maille, et les espaces ouverts. Également important, la question de l'agencement des espaces de nature et du cadre bâti. Donc, dans quelle mesure les espaces de nature peuvent contribuer à qualifier cette densification, donc que ce soit en fournissant des zones tampons, hein, donc, où on essaye justement de tamiser, je dirais, donc, le contact ou graduer les différents espaces, que ce soit l'espace public, l'espace collectif ou ouvert ou l'espace privé, ou même, comme on le faisait au XIXe siècle avec les boulevards, donc de façon à ponctuer différentes structures urbaines dans la ville. Alors, à Bruxelles comme à Montréal, plusieurs sont les discours qui ont favorisé le débat sur la densification. Le premier discours porte sur le retour en ville, donc la question du retour ou du maintien surtout des classes moyennes dans la ville, donc suite à la perte de population de la ville-centre au profit de la banlieue. Donc on connaît tous les impacts que cela a eu dans le manque de dynamisation justement de certains quartiers centraux, notamment pour les milieux de vie, donc à partir des années 70 et des années 80, mais aussi l'impact que cela a sur l'assiette fiscale et la question de la solidarité intercommunale. Deuxième discours qui a favorisé le débat sur la densification, la question de la reconstruction de la ville sur la ville. Donc à partir des années 70 et des années 80 aussi, la reconstruction de la ville sur elle-même serait une réponse au processus de désindustrialisation progressif et donc réutiliser ou réurbaniser donc des friches qui ont été laissées par rapport à ce processus de désindustrialisation pourrait être une opportunité d'amorcer un processus de régénération urbaine à la fois sociale et économique. Troisième discours, très présent actuellement, donc la question de la transition énergétique et de la nécessité d'optimiser les ressources sur le territoire selon les principes du développement durable, s'appuyant notamment sur l'économie de la connaissance ou l'économie du savoir et comment donc, des innovations pourraient apporter des alternatives à la fois à la consommation mais aussi à la gestion des ressources que nous avons sur nos territoires. Quatrième discours, la question du capital humain ou de la théorie du capital humain qui a fait beaucoup jaser ces dernières 15 ans dans la littérature scientifique, mais aussi par rapport aux politiques publiques de développement urbain, dans la mesure où on s'appuierait sur l'existence d'une force de travail créative qu'en Amérique du Nord, on appelle la classe créative, et donc des employés, en tout cas des secteurs qui sont porteurs d'innovation ou secteurs de créativité, et où les villes essayent d'attirer et de maintenir ces ressources, notamment en travaillant sur la qualité des milieux de vie. Hein, donc la question des milieux résidentiels, en tout cas des choix, il y a des paris qui sont faits par rapport à certaines qualités de l'espace résidentiel qui pourraient attirer davantage ce type de population et du coup, ou par conséquent, redéployer une économie de services plus liée à l'innovation et à la créativité. Le cinquième discours porte sur la métropolisation et la mise en réseau des milieux de vie, donc face à un constat d'un fort décalage entre les réalités administratives des territoires et la limitation de ces compétences. Donc, c'était très explicite ce matin, en tout cas quand on a pu étudier, donc comparer à la fois donc, les différents paliers institutionnels montréalais et bruxellois et les dynamiques socio-économiques qui, bien sûr, extrapolent largement les limites administratives que nous avons, que ce soit la ville, l'agglomération ou la grande région urbaine. Alors, donnons quelques exemples concrets de comment ces discours qui ont promu dans une certaine mesure la densification dans ces dernières années se matérialisent dans des cas concrets, donc quelques images en fait à Bruxelles et à Montréal, avant de parler de Bruxelles précisément. Alors, si on parle du retour en ville, donc ça c'était une des premières questions. Donc, ce discours à Bruxelles s'opérationnalise sur toute une série de dispositifs d'incitation de la production résidentielle qui est portée par le pouvoir public, surtout dans les quartiers les plus défavorisés. Donc, j'aurai l'occasion de vous présenter géographiquement par la suite un territoire qui s'appelle donc l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation et qui est un espace prioritaire de développement de la fonction résidentielle. Alors cet exemple est intéressant parce que là on se trouve dans un quartier anciennement je dirais assez difficile et défavorisé à l'ouest de Bruxelles et on se trouve à proximité d'une station de métro. Et donc, dans toute la préconisation autour des TOD, on se dit donc, qu'il faut absolument densifier, donc il faut profiter évidemment de la connectivité. Mais ici, le pari qui a été fait, c'est qu'on pourrait donc aussi, dans cette typologie, travailler avec des maisons de ville, hein, donc ça a été le cas ici, et qu'il y a eu évidemment une appréciation, je dirais, très forte de la part de la population qui a acquis ce logement, parce que ça répond à des besoins liés à des familles, en tout cas le maintien de familles en ville. Donc, il y a quand même un certain équilibre qu'il faut trouver entre la densification, mais aussi une diversité des typologies qui pourraient accueillir une diversité des profils sociaux et des profils, je dirais, plus au niveau de la composition des ménages. Petit parallèle par rapport à la question du retour en ville à Montréal. Donc, on a vu et on voit toujours, en fait, la transformation des quartiers centraux, que ce soit dans le Vieux-Montréal ou en tout cas dans les faubourgs autour du Vieux-Montréal, une construction assez massive de la production résidentielle, quoique la production résidentielle, dans ce cas, n'est pas une production résidentielle liée ou en tout cas associée à des classes, je dirais, moyennes ou même plus défavorisées, mais au contraire, c'est une promotion immobilière de type libre et qui va prioriser, en tout cas, des profils socio-économiques d'employés donc, qui sont plus nantis. Alors, passons au deuxième discours sur la reconstruction de la ville sur la ville. Donc, je vous donne un exemple à Bruxelles qui a été réalisé dans les années 90. Donc, on avait un ancien hôpital militaire. Et cet hôpital militaire qui a été désaffecté pendant plusieurs années a été racheté, en fait, et transformé dans une opération assez complexe et qui mixte à la fois du logement conventionné, c'est-à-dire du logement dont le prix d'acquisition est plafonné, donc ce qu'on appelle à Bruxelles le logement moyen, du logement social, du logement du marché libre, des bureaux, je pourrais même pointer, ça sera plus... Oups, excusez. Ça sera plus facile. Donc, vous avez ici les bureaux, les logements du marché libre et le parc que vous voyez au centre. Et donc, vous avez donc une première expérimentation en fait, de mixité sociale donc, à partir d'un projet urbain. Alors, on peut citer également la transformation à Montréal des quartiers anciennement industriels, donc dans cette dynamique de reconstruction de la ville sur la ville, notamment la cité du multimédia, hein, pour citer que celui-là, mais on pourrait citer également tout le débat autour de Griffintown. Et donc, cette dynamique de à la fois de reconversion de bâtiments existants, donc de bâtiments anciennement industriels, mais aussi la construction nouvelle qui s'accompagne notamment de nouveaux profils socio-économiques d'habitants et de nouvelles activités économiques. Ensuite, le discours sur la transition énergétique. Dans ces quartiers anciennement industriels, il y a aussi une préoccupation de pouvoir réfléchir donc, à cette transition énergétique, que ce soit à partir des certifications. Donc ça, c'est une question aussi très importante aussi dans la viabilité, je dirais, des nouvelles opérations résidentielles, la question des certifications énergétiques, mais aussi dans la reconversion des voies d'eau. Donc le cas du canal à Bruxelles, le canal de Willbrook à Bruxelles ou le canal de la Chine à Montréal. Et donc, comment on réinvestit en fait des voies d'eau qui historiquement ont été des portes d'entrée, en tout cas de l'industrialisation, à la fois en Belgique et au Canada. Et donc, comment on réinvestit et on fait cohabiter des fonctions résidentielles avec des fonctions récréo-touristiques, mais aussi encore des fonctions portuaires et logistiques. Donc, on le voit par l'image que c'est, vous voyez donc la tour qui est là. Donc, excusez. Donc la tour qui est là, c'est la première tour résidentielle après 40 ans en Belgique. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment, donc à Bruxelles, on a un a priori, je dirais, par rapport aux immeubles en hauteur. Et donc c'est la première tour résidentielle et elle vient d'être inaugurée. Donc elle a été inaugurée, si je me rappelle bien, au mois de juin de cette année-ci. Donc ça montre un réinvestissement, mais aussi une cohabitation entre différentes fonctions, mais aussi les tensions que cela pourrait générer. Alors, faisons le parallèle avec Montréal et tout le réinvestissement donc le long du canal de la Chine, donc la transition énergétique, mais aussi toute la production résidentielle qui continue de se faire, mais encore une fois, surtout avec des opérations résidentielles qui sont plutôt destinées à des classes très prisées, je dirais très spécifiques au niveau du profil socio-économique. Alors, ces processus de transformation de l'économie industrielle vers l'économie des savoirs et des secteurs innovants a eu un impact aussi dans la transformation de certains quartiers où on a réinvesti donc des secteurs ou bien même des complexes anciennement industriels pour faire des laboratoires ou en tout cas des incubateurs de la nouvelle économie. Donc, on a, en tout cas à Bruxelles, on a différents incubateurs qui, et même à Montréal aussi, donc on a essayé de cibler certains quartiers, donc le redéveloppement du quartier, à partir de fonctions justement qui soient liées aux médias, aux nouvelles technologies d'information et de communication ou autres, et où on essaye de mixer avec des espaces publics et du logement également. Donc là, c'est notamment donc, la couverture du bouquin en fait, donc, que je présente aujourd'hui, donc l'ICAB. Un incubateur bruxellois, mais on pourrait citer également Le technopôle Angus, hein, donc qui est en pleine évolution encore, et qui mixe également des activités économiques avec du logement, mais qui est encore, c'est pas fini. Donc, ce sont des projets qui sont vraiment de très long terme, mais qui témoignent de ces expérimentations. Donc, je pense qu'il y a quand même cet intérêt-là de témoigner de ces expérimentations au niveau de nouvelles formes de mixité. Alors, la métropolisation, la métropolisation est un fait, que ce soit à Montréal ou à Bruxelles, la ville-centre et les villes autour ne peuvent plus travailler seules. Hein, donc, je pense que ça, on l'a bien compris. Donc, il faut pouvoir organiser des complémentarités, peut-être sur certains sujets, comme la question de la mobilité, ou peut-être de façon un peu plus structurée, comme à Montréal. Donc, à Montréal, on a une communauté métropolitaine constituée depuis 2001. Alors qu'à Bruxelles, donc, ça vaut la peine de faire le parallèle. Donc, ici, vous avez une mise à l'échelle. Donc, à la même échelle, vous voyez la région de Bruxelles capitale. Et vous avez donc les deux régions, donc nord et sud de la Belgique. Donc vous savez que la Belgique, c'est une tripartite fédérale où les régions ont beaucoup de compétences donc d'autonomie. Et vous avez donc une communauté métropolitaine de Bruxelles qui a été créée à partir de la 6e réforme de l'État belge en 2012, mais qui n'est toujours pas constituée en tant que telle. Donc on peut difficilement la comparer à la communauté métropolitaine de Montréal. Néanmoins, les dynamiques socio-économiques, donc là on comprend que ça extrapole les limites de la région de Bruxelles-Capitale que vous voyez représentée en gris clair. Alors, pour ceux qui ne sont pas ou moins familiarisés avec le contexte, je dirais, plus institutionnel de la Belgique, donc juste un petit clin d'œil. Donc, la Belgique, un État, pour l'instant en tout cas, trois régions, trois communautés, donc plusieurs communes et croisements de compétences. Bruxelles, elle est capitale à plusieurs niveaux, hein, donc capitale de la Belgique, capitale d'une partie, donc une des capitales de l'Europe, mais aussi capitale d'elle-même, donc région de Bruxelles capitale constituée à partir de 1989. Donc tout cela dans un territoire qui est relativement restreint. Donc le territoire de la région bruxelloise, c'est ce que vous voyez en rouge en bas de l'écran. Donc c'est 161 km². Et donc si on compare cela par rapport à la ville de Montréal, donc je ne parle pas de l'agglomération de Montréal, mais juste la ville de Montréal, on est à 363 km². Donc c'est un territoire qui est relativement restreint, mais avec des enjeux de taille, donc au niveau donc des différents défis auxquels elle est confrontée. Petite précision à ne pas confondre non plus la région de Bruxelles-Capitale avec la ville de Bruxelles. Donc la région de Bruxelles-Capitale, elle est constituée de 19 communes et l'une de ces 19 communes est la ville de Bruxelles qui compte 170 000 habitants. Donc c'est ce que vous voyez en rouge. Donc c'est à la fois l'hypercentre qu'on appelle à Bruxelles le Pentagone. Donc c'est important parce que je vais revenir avec ce nom à plusieurs reprises pour expliquer mes analyses. Mais aussi, vous voyez donc l'extension vers le nord de Bruxelles qui reprend grosso modo le canal, donc une partie du canal en tout cas où se trouvent les installations portuaires et logistiques. Alors, pour comprendre les enjeux de la densification urbaine donc présentement à Bruxelles, il faut revenir en arrière et comprendre comment ce processus a été amorcé, surtout depuis la régionalisation, donc depuis la création des trois régions, Flandre, Wallonie et la région bruxelloise, à partir de la question du logement qui a fortement orienté les choix des politiques publiques de développement urbain. Donc c'est pour ça que c'est l'approche que nous avons privilégiée dans nos recherches. Alors, nous avons surtout étudié les grands projets résidentiels, donc les grands projets de logement. Donc il faut savoir que il n'y avait pas un inventaire. Donc quand on a commencé ces recherches, donc ça fait déjà environ 7 ans en fait, le début de ces recherches qu'on a mis à jour en tout cas. Donc il n'y avait pas d'inventaire avec les différents permis de construction pour savoir de façon claire exactement où on a construit et combien on a construit à Bruxelles. Donc on avait des statistiques qui étaient très générales, mais on n'avait pas une approche, je dirais, donc très précise donc de la localisation de la production du logement. Donc ça c'est un travail que nous avons fait donc de longue haleine. Et la carte que vous voyez là, c'est la représentation donc de la production résidentielle de 1989 jusque 2011. Et alors, ce qu'on va observer, donc on va observer donc d'une part que donc il y a un territoire grisé que vous voyez là, donc que j'ai commenté tout à l'heure, qui est le territoire prioritaire de développement du logement et de la rénovation. Donc on comprend que ce sont les quartiers les plus défavorisés. les plus défavorisés, en tout cas les quartiers du centre qui ont souffert en fait de la transformation au profit de la construction d'immeubles de bureaux. Donc, par rapport au statut justement de multicapitale qu'à Bruxelles. Alors, si on regarde un petit peu les phases, donc les différentes phases de production du logement, donc on a trois phases importantes et ça correspond à chaque fois aux plans régionaux de développement qui ont été approuvés. Donc, c'est le document d'orientation stratégique. Donc, pour la période la plus récente, donc, qui est donc signifiée en rouge, entre 2003 et 2011, vous voyez que la production du logement, elle est importante, elle est assez massive et partout. Donc, difficilement, on peut dire qu'on a construit plutôt dans un endroit que dans un autre, donc prioritaire. Et cela correspond aussi à une reprise de la dynamique immobilière résidentielle assez forte et poussée à Bruxelles depuis 2003 pour plusieurs raisons, dont la question de la chute des taux hypothécaires, mais aussi d'un certain effritement de la production des immeubles de bureaux. Donc, une certaine réconversion de promoteurs immobiliers qui faisaient du bureau et qui ont commencé à diversifier leurs activités, donc au profit du résidentiel également. Deuxième période intermédiaire, donc entre 1996 et 2002. Donc là, on va s'apercevoir que la production, en effet, elle a été plus faible, donc de façon générale, et surtout, elle a été faible dans les quartiers les plus défavorisés. Donc une difficulté de suivre le rythme, même si plusieurs initiatives de revitalisation urbaine ont été menées depuis 1993, notamment avec les contrats de quartier. Et la période la plus remote, la plus ancienne, donc entre 1989 et 1995, où là, on observe, donc c'est ce qui est en jaune, on observe une concentration assez importante dans l'hypercentre, parce que ça correspond au moment où la région de Bruxelles-Capitale a lancé donc toute une série d'initiatives pour essayer de freiner le mouvement de remplacement des logements par des bureaux dans l'hypercentre et de pouvoir préserver donc une certaine production résidentielle. Donc cela a eu certains effets, en tout cas dans cette production résidentielle dans l'hypercentre, mais aussi en périphérie. Donc vous voyez que progressivement, ça s'est rempli donc depuis une vingtaine d'années à partir de différents lotissements. Alors, si on passe maintenant aux modalités récentes de production du logement en région de Bruxelles-Capitale, donc vous allez voir qu'il y a aussi certaines concordances avec ce que nous avons à Montréal. Mais je vous invite à regarder également les pourcentages en bas, donc la répartition. Donc, dans cette production résidentielle qui a fait donc environ 40 000 logements, on va observer donc qu'il y a cinq modalités qui sont représentées. Donc une première modalité qui est la réconversion de friches ou bien la délocalisation de grands équipements. Donc c'était l'exemple des Jardins de la Couronne, donc la réconversion de l'ancien hôpital militaire d'Ixelles, mais juste 5%, donc pas beaucoup dans ce type d'opération. Deuxième modalité, la réconversion de bâtiments. Donc à ce moment-là, on a surtout reconverti des bâtiments industriels. Et vous allez voir que pour la suite, en tout cas pour la période la plus récente, on s'attaque à Bruxelles surtout à la réconversion de bureaux. Donc, c'est-à-dire que le patrimoine, je dirais, plus industriel a été reconverti grosso modo de façon générale, mais que les ressources qui restent encore et qui sont assez intéressantes, c'est la réconversion de bureaux pour le logement, mais il faut savoir également qu'on a fait la réconversion de bureaux pour d'autres affectations, dont des écoles ou des équipements. Ensuite, le développement de la mixité dans des zones administratives. Donc, le fait de transformer donc certains quartiers pour la vocation, je dirais, plus tertiaire, qui est notamment en lien justement avec ce statut de multicapitale de Bruxelles, on a essayé d'avoir certaines compensations urbanistiques, hein, donc, au niveau des charges, pour pouvoir construire du logement dans des quartiers qui, à la base, sont très monofonctionnels. Donc, on a eu quelques expériences de cela, donc certains dans le quartier ou à côté du quartier européen, mais dans le quartier qui est illustré ici, c'est le quartier de la Gare du Nord. Ensuite, la modalité du remplissage. Donc, observez que le remplissage, c'est la modalité principale, donc 64%. Et on comprend dans une ville où l'urbanisation est assez consolidée qu'on va retrouver des opportunités de transformation du tissu, surtout dans les quartiers centraux ou les quartiers péricentraux. Et enfin, l'urbanisation nouvelle. Donc, l'urbanisation nouvelle, c'est ce qu'on a qualifié pour donc ce qu'on appelle les greenfields, ou en tout cas les terrains vagues qui n'ont pas d'occupation avant. Donc, quand même relativement important, donc 21%. Donc, évidemment que ça se trouve pas dans le centre, mais surtout dans la deuxième couronne urbaine, c'est-à-dire la frange, mais toujours à l'intérieur de la région de Bruxelles-Capitale. Toujours est-il que si vous mettez de côté le 21%, donc on a quand même presque donc 80% de la production résidentielle à Bruxelles, des grandes opérations, donc des opérations qui ont produit 10 logements et plus, issues de modalités de reconstruction de la ville sur la ville. Alors, quelle densité cette production résidentielle a générée? Donc, ce qu'on va observer, c'est que la reconversion des friches issues de la délocalisation de grands équipements sont les opérations qui génèrent des densités les plus importantes. Donc, on est là dans l'ordre de 286 logements par hectare. Mais on observera également que la reconversion de bâtiments génère des densités plus faibles que la construction de nouvelles opérations. Donc, on peut comprendre, ou en tout cas expliquer cela en partie, dans la mesure où la reconversion de bâtiments, techniquement, elle exige, en fait, il y a des contraintes pour ce type de reconversion. Donc, pas toujours aisé non plus de produire beaucoup de logements dans ce type d'opération. Donc, c'est évidemment plus facile de pouvoir régler cela avec de l'urbanisation nouvelle. Mais on pourra se poser la question également, dans certains quartiers bruxellois où il y a des quartiers donc plus défavorisés et on a fait la reconversion de bâtiments industriels, mais où ce sont des quartiers où on a peu d'espace de verdure, ou peu d'équipement, donc dans quelle mesure on aurait pu imaginer peut-être une autre programmation à la fois, je dirais, des équipements d'intérêt collectif ou bien des espaces de verdure à la place de logements, donc surtout de logements moyens. Alors, cette densité, elle n'a pas une répartition, je dirais, égale sur le territoire. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, est-ce que cette production résidentielle des 20 dernières années a contribué à densifier le territoire de façon générale? Donc, je peux vous répondre que si, donc oui, de façon générale pour la région de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où la densité moyenne du tissu résidentiel bruxellois est de 110 logements à l'hectare, alors que la production résidentielle récente a généré une densité de 151 logements par hectare. Cela se produit également dans les différentes couronnes d'urbanisation, que ce soit dans le Pentagone, donc l'hypercentre, ou la première couronne. Donc, on voit également avec les chiffres que ça a également donc eu un impact au niveau de la densification. Mais ça ne suffit pas. Donc, ça ne suffit pas parce qu'il faut aller plus, de façon plus fine, en tout cas, dans l'analyse et regarder à l'échelle des secteurs, donc ce qu'on appellerait ici les secteurs de recensement. Et là, ce qu'on va observer, c'est que certains secteurs ont une densité, donc la production résidentielle a produit des densités plus faible que la moyenne existante. Donc, j'attire votre attention pour tous les secteurs qui sont colorés en bleu. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et vous voyez que c'est surtout à l'ouest du Pentagone, de l'hypercentre. Et cela s'explique encore une fois par le fait que c'est là que ça se concentre la plupart des bâtiments industriels, donc, où la reconversion a généré donc, des densités plus faibles. Alors, cette production résidentielle, elle a également contribué à densifier des nœuds de transport. Donc ça, c'est un élément intéressant aussi. Donc à Bruxelles, nous avons dans les différents processus de planification, donc une des cartes qui ont été élaborées, donc c'est la carte que vous voyez à droite, donc des zones de connectivité. Donc plus c'est foncé, mieux c'est connecté au réseau de transport en commun. Donc on peut lire, bon, vous voyez donc ce qui est rouge, c'est vraiment l'hypercentre, mais avec une poche à l'intérieur parce qu'il y a des zones encore en friche qui ne sont pas encore desservies ou développées. On va observer également la zone, l'orangé qui reprend donc, les différents axes structurants, donc les anciennes chaussées qui relient Bruxelles à son hinterland, en tout cas à sa métropole, et les zones qui sont en clair, qui sont les zones justement moins bien connectées. Donc, ce n'est pas qu'elles ne sont pas connectées, mais qu'elles sont moins bien connectées par rapport au centre. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la fonction résidentielle, dans ces 20 dernières années, elle a investi, en tout cas, elle a réinvesti donc, les quartiers centraux, mais elle a également contribué à densifier la zone la moins bien desservie en transport en commun. Alors, c'est intéressant parce que, historiquement, c'est une inversion. Historiquement, à Bruxelles, on a surtout concentré ou réservé les quartiers les mieux connectés pour la fonction tertiaire. Donc pour les bureaux. Donc on assiste à une certaine complémentarité, peut-être même une certaine compétition au niveau des affectations entre la fonction résidentielle et la fonction tertiaire ou autre fonction de centralité. Alors cette production résidentielle a peut contribuer pour l'instant, en tout cas, à recomposer certains axes de la capitale. Donc elle a surtout contribué à recomposer le canal, en tout cas la partie centrale, le tronçon central du canal que vous voyez dessiné en bleu. Et donc, si on regarde donc dans la transformation, je dirais, plus du paysage ou du skyline, ça a été moins fort dans la mesure où la typologie prédominante de cette production résidentielle, ce ne sont pas des tours, Donc ça, vous avez bien compris. Donc la première vient d'être inaugurée après 40 ans. Mais ce sont des typologies, comme vous voyez à l'écran. Donc c'est vraiment des bâtiments, donc des immeubles appartements, donc collectifs, mais moyens en termes d'auteur. Pas une difficulté, mais en tout cas, donc un processus qui est en cours. Donc il y a certains espaces qui ont été modifiés, en tout cas qui sont en pleine transformation, notamment les anciennes chaussées. Mais probablement que ce processus va se poursuivre pour les années à venir. Alors, la production résidentielle récente a peu contribué à fabriquer des espaces publics en tant que tels, sauf pour les opérations dont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise foncière revenaient au public. Donc, quand ça revenait au public, donc, et surtout à partir d'une certaine envergure, il y a eu des expériences donc, très intéressantes d'aménagement de parcs, de squares ou de places à partir de ces opérations. On a eu également de la production de l'espace public dans des opérations d'envergure, même si la maîtrise d'ouvrage revenait au privé. Donc là, je cite les jardins de Jette. Mais souvent, ça reste du décor de l'opération dans la mesure où ça reste plus localisé, je dirais, donc par rapport à la trame urbaine. Mais cette production résidentielle a tout de même contribué à fabriquer des espaces communs. Alors, parmi les espaces, donc juste peut-être faire la différence entre espace commun, espace collectif et espace privé ou espace public. Donc, les espaces communs ou les espaces collectifs, ce sont les espaces dans ce cas-ci, donc qui sont partagés par les résidents de l'opération. Donc, ce qu'on voit de façon récurrente et qui est assez intéressant parce que ça correspond un peu à l'évolution de la morphologie à Bruxelles, c'est la question de l'intérieur de l'îlot. Donc l'intérieur d'îlot vert. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois ça se produit dans le centre, dans les quartiers péricentraux, mais en deuxième couronne aussi. Et ça donne une certaine configuration intéressante dans la mesure où vous avez des typologies de logements qui sont orientées sur la rue, mais qui en même temps bénéficient du calme ou de la verdure donc à l'intérieur de l'îlot. Et donc ça, c'est une caractéristique propre dans les quartiers bruxellois, en tout cas dans les îlots bruxellois, et qui a été reprise dans ces nouvelles opérations résidentielles. Alors, cette production, elle a également contribué à fabriquer, ou en tout cas à conformer les abords des espaces publics. Donc même si elle n'a pas toujours, par l'envergure, par la maîtrise d'ouvrage, contribué à créer des nouveaux espaces publics, elle a contribué à conformer, ou en tout cas, elle a contribué à revitaliser des secteurs et surtout des espaces publics qui existaient déjà dans le temps, mais qui étaient, je dirais, en dévitalisation, en tout cas en difficulté. Et cela, évidemment, est à mettre en association entre une production résidentielle, donc publique, des fois accompagnée par des promoteurs privés, mais surtout un grand effort de la part de la région de Bruxelles-Capitale d'investir dans la revitalisation des quartiers. Donc, je le disais tout à l'heure, à partir d'une politique qui s'appelle les contrats de quartier, donc depuis 1993. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui vise en tout cas à la fois la production du logement, donc logement moyen et logement social, mais aussi et surtout la production d'équipements et l'aménagement, le réaménagement des espaces publics. Alors, si on passe maintenant aux filières de la production récente du logement en région de Bruxelles-Capitale, donc qui a produit ces opérations ? Donc, il faut savoir que environ 80% de cette production relève du privé. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti du colloque ce matin, cette journée en tout cas. C'est la question du rôle de la promotion immobilière privée dans cette production résidentielle. Parce qu'on sait que malgré tous les efforts ou les initiatives du pouvoir public pour avoir un effet de levier ou amorcer certaines dynamiques, la majorité de la production résidentielle relève effectivement du privé. Alors, ce qui est intéressant de voir, ou en tout cas de comparer, donc vous avez RBC, c'est pour la région de Bruxelles-Capitale tout entière, et on compare ces pourcentages avec le territoire grisé, donc l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation. Donc on observe en effet que la filière publique, elle investit donc plus dans ce territoire, donc ce qui est assez logique dans la mesure où c'est un territoire prioritaire, mais que le secteur privé, en tout cas, n'accompagne pas toujours au même rythme cette évolution. Alors, on s'est interrogé, donc étant donné que 80% de cette production privée, production résidentielle relève du privé, quelles étaient les caractéristiques, en tout cas, quels étaient les facteurs qui orientaient l'action des promoteurs immobiliers à Bruxelles. Donc, nous avons réalisé plusieurs entretiens avec ces promoteurs et nous avons donc énuméré quelques facteurs, en tout cas, décisifs dans le choix de ces opérations résidentielles. Donc, ce qui est revenu, donc ce qui apparaît, c'est la densité de logements autorisés. Donc, les différences de densité, parce que dans la mesure où vous avez à la fois la région, mais aussi les différentes communes. La prise en compte des paramètres urbanistiques. Donc, très important cela, parce que de plus en plus, donc on a fait une petite analyse des fascicules ou des brochures publicitaires qui sont donc publiées par les promoteurs immobiliers. Et je pense, en tout cas, à Montréal, j'ai l'impression que c'est aussi la même chose. Donc, nous avons donc les promoteurs immobiliers vont s'ancrer, en tout cas, sur les qualités du milieu de vie existant, en tout cas. Donc, à la fois se raccrocher au fait d'avoir certains espaces verts, ou la proximité à des espaces verts ou à des pistes cyclables éventuellement, d'avoir la proximité d'écoles, surtout si ce sont des bonnes écoles. Donc, on va essayer de mobiliser également cela comme des atouts. La proximité de certains équipements, du patrimoine éventuellement, si on se trouve dans des quartiers plus centraux. Et donc, on voit que de plus en plus, des paramètres urbanistiques sont intégrés dans le raisonnement des promoteurs immobiliers, mais on se posera la question également de la contrepartie. Donc, dans quelle mesure on pourrait avoir donc une contrepartie dans la production de la ville aussi par les promoteurs immobiliers. Donc, il y a évidemment les compensations financières, mais au-delà de ce dispositif. La chute des taux hypothécaires, donc c'est ce qui expliquait que depuis 2003, il y avait eu une hausse de cette production résidentielle. Et donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, certains promoteurs qui étaient plutôt spécialisés dans la production de bureaux qui ont commencé à diversifier leurs activités dans la production résidentielle. Il faut savoir également qu'à Bruxelles, on n'a pas vraiment des grands groupes internationaux au niveau de l'immobilier. C'est une promotion immobilière qui est plus soit bruxelloise ou flamande. Donc, il y a aussi beaucoup de promoteurs flamands qui investissent à Bruxelles, mais ça reste encore des groupes assez, donc en termes d'envergure, donc assez locaux. La maîtrise du foncier, donc les dimensions du terrain permettant le développement d'opérations de 30 à 40 logements. Donc avec les entretiens, ce qui est ressorti, c'est que les promoteurs immobiliers sont beaucoup moins intéressés à produire en deçà de ce seuil. Donc ça devient intéressant à partir de 30 à 40 logements, ce qui pose problème, en tout cas dans la mesure où Bruxelles, on a des ressources foncières, mais pas beaucoup, en tout cas il n'en reste pas plus beaucoup, et un certain exode aussi de la promotion privée vers l'extérieur de Bruxelles, de la région de Bruxelles-Capitale. Donc on a eu ce raisonnement-là aussi parce que pour les promoteurs immobiliers, c'était important d'avoir un minimum, je dirais, donc de 30 à 40 logements pour que ça soit intéressant à développer. La durée de l'opération, donc de 3 à 5 ans de la maîtrise du foncier à la commercialisation. Donc on comprend que dépendant de l'envergure de l'opération, mais aussi des contraintes que cela peut avoir par rapport au milieu dans lequel ça s'inscrit, notamment avec la population et la société civile, donc avec des recours qui peuvent aller donc jusqu'au Conseil d'État, qui est le palier le plus élevé. Donc ça peut générer aussi des problèmes, notamment au niveau de la viabilité de l'opération, donc important, de 3 à 5 ans en termes de temporalité. Le prix de commercialisation en fonction de la localisation. Donc ça, c'est ressorti parce que donc on a l'impression qu'on peut vraiment stéréotyper donc certains quartiers pour le prix de la commercialisation, mais de plus en plus, ça devient nuancé. Et on va observer certaines fois pour une rue ou une avenue, différents tronçons et où le prix de commercialisation varie. Donc, il est difficile de parler simplement de quartier, mais il faut aller plus finement, en tout cas, pour pouvoir saisir ces différentes dynamiques immobilières. Et le moyen de gamme, qui est un créneau du marché immobilier à développer. Donc, le moyen de gamme, donc, pour ceux qui étaient là, donc, est surtout développé par une des agences, en tout cas, de pararégionale, qui est CityDev Brussels. Et ça, c'est le public, donc, qui est en partenariat avec le privé. Mais de plus en plus, les promoteurs immobiliers privés se rendre compte qu'il y a un besoin d'investir dans le moyen de gamme parce que, d'une part, il y a un manque d'adéquation aussi entre l'offre et la demande. Donc, à la fois, vous avez le logement social et le logement haut de gamme. Donc, il y a donc la nécessité de développer cela, donc, notamment pour différents profils socio-économiques de la région. Alors, voici pour les caractéristiques générales de cette production résidentielle. Donc, on se posera la question dans quelle mesure cette production résidentielle peut nous apprendre quelque chose pour la production future. Alors, un élément de contextualisation que je n'ai pas encore mentionné, mais que je le fais maintenant, c'est la croissance démographique. Donc, la région de Bruxelles-Capitale, elle est confrontée à une croissance, un essor démographique de l'ordre de 170 000 habitants. Donc, c'est pas mal pour une ville-région qui a 1,1 million d'habitants. Et donc, la nécessité de créer du logement et pas n'importe quel logement non plus. Donc, ça doit répondre aux différents profils socio-économiques, tout en sachant que Bruxelles est une ville qui risque, en tout cas, la dualisation. Donc, à la fois une pauvreté, une population moins qualifiée, mais aussi une population qui est très qualifiée. Et donc, à partir des différentes projections qui ont été faites, on a estimé, en tout cas, ça a été estimé, donc qu'il y aurait un besoin de créer environ 70 000 logements pour les années à venir. Alors, c'est pas mal. Si je vous parle en termes de rythme de production, actuellement, on est à environ à 4 800 logements par an. Et pour atteindre ce chiffre-là, on aurait un besoin de construire 6 000 ou 6 600 logements par an. Hein, donc, il ne suffit pas simplement d'estimer, mais il faut aussi donc trouver à la fois les investisseurs, les promoteurs immobiliers, les ressources foncières et autres pour alimenter cela. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de reprendre les mêmes modalités. Donc, si la production résidentielle continuait d'être la même, donc ça, c'est l'hypothèse. Si rien ne changeait, donc si on prenait les mêmes modalités, donc la réconversion de grandes friches, la réconversion de bâtiments, la réinsertion de la mixité dans des zones administratives, le remplissage et l'urbanisation nouvelle, est-ce qu'on aurait les ressources à Bruxelles? Ça, c'est la première question à se poser. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que surtout, je suis dans un contexte montréalais qui fait moins écho donc, aux différentes localisations. Mais grosso modo, la première ressource, c'est la ressource de l'urbanisation nouvelle. Donc, si on prenait la même tendance, on aurait un besoin de 112 hectares. Juste par le chiffre que vous voyez à l'écran, vous voyez qu'on a amplement la cote. Hein, donc, on a des terrains agricoles encore, on a des terrains publics, on a des terrains privés à bâtir ou des terrains vagues. Le problème, c'est que ça ne serait pas judicieux de mobiliser des ressources de l'urbanisation nouvelle alors qu'on a tellement, ou vous allez voir, en tout cas, on a encore beaucoup de friches à développer ou à redévelopper. Un autre élément, donc on fait souvent référence à Robert Rosel qui avait donc estimé dans les affectations au sol, une certaine distribution optimale, je dirais, des affectations, et qui disait donc que pour le logement, l'idéal, ce serait d'avoir donc un 35% de l'affectation liée au résidentiel. Si on fait le calcul à Bruxelles présentement, on est à 28%, donc on aurait encore une marge de 7% pour faire du résidentiel, théoriquement. Donc, ce n'est pas une question simplement d'espace, même si le territoire est restreint. La deuxième ressource, ce sont les friches ferroviaires, portuaires et le regroupement d'équipements. Donc, et ça, je vais détailler par la suite. Si on prenait juste la tendance qu'on a eue dans les 20 dernières années, on aurait un besoin de 11 hectares, ce qui est tout à fait ridicule. Hein, c'est évidemment très peu. Prenez donc juste quelques friches que nous avons à Bruxelles et, encore une fois, on aurait donc largement la ressource, je dirais, foncière pour le faire. Mais évidemment, ce qui bloque, ce sont toutes les complexités qui sont derrière. Alors, je vous donne un exemple dans la question de la délocalisation de grands équipements. On avait parlé tout à l'heure notamment des hôpitaux, mais on peut parler aussi des prisons, donc des prisons urbaines. Donc, vous avez à la même échelle, donc d'une part, à gauche, le Jardin de la Couronne que j'ai présenté en début de ma conférence, qui est une opération donc mixte qui a investi un ancien hôpital militaire. Et à droite, vous avez la prison de Saint-Gilles, donc une prison de Saint-Gilles et de Forêt, donc c'est deux municipalités, deux arrondissements en fait de Bruxelles. Donc, il y a tout un projet de délocaliser la prison et de la reconstruire dans la frange de la ville, en fait, dans la région, mais ailleurs, donc en deuxième couronne. Donc, si on fait juste l'exercice de transposer la même programmation, vous voyez qu'on pourrait potentiellement passer de 620 détenus à 1800 habitants, hein, d'une part. D'autre part, on peut se poser également la question sociale, hein, donc le fait que c'est une prison qui est extrêmement bien centralisée, qui est bien connectée, etc. Donc la question de la visite des familles, etc., qui se trouverait à aller donc aux franges de la ville. Mais en tout cas, encore une fois, ça montre que ce n'est pas un problème d'espace. La ressource de la reconversion des bâtiments. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on a surtout reconverti des bâtiments industriels en logements, mais la ressource des bâtiments de bureaux également. Mais donc, on s'est retrouvé. Donc, à Bruxelles, on a une problématique qui sont des mètres carrés de bureaux vacants. Je me projette là peut-être, mais je pense que c'est 12 millions de mètres carrés de bureaux. Je pense qu'il y a environ 2 millions de mètres carrés qui sont vacants ou en tout cas sous-utilisés pour différentes raisons, donc à la fois spéculation, mais aussi des fois donc manque d'adéquation, donc des bâtiments qui sont obsolètes ou qui n'ont pas toutes les ressources dont les entreprises ont besoin présentement. Et donc, on se retrouve aussi sur dans des quartiers, ou en tout cas des portions d'axes, comme vous le voyez là, où on a énormément de mètres carrés je ne parle pas en pied carré, mais bon, en tout cas, de mètres carrés de bâtiments, de bureaux à louer. Alors, il y a eu tout un effort d'essayer, notamment par la promotion immobilière privée, de reconvertir certains immeubles de bureaux en logements. Donc, pour cette même rue que vous voyez là, donc vous avez donc un indicateur de la transformation. D'une part, on n'a plus des mètres carrés à louer, on a des mètres carrés à vendre, et c'est du logement. Et d'autre part, le deuxième indicateur, ce sont les terrasses. Donc, vous voyez là des balcons, en tout cas, qui sont apposés pour essayer justement de rajouter une valeur et une qualité, je dirais, plus attractive pour des personnes qui pourraient acquérir ces logements. Alors, si ça va fonctionner ou pas, c'est encore très récent pour le dire parce que ça vient de se faire. Les ressources du remplissage urbain. Donc, si on continue dans la même tendance, vous avez vu que dans la tendance passée, c'était la principale dynamique. C'est évidemment difficile de quantifier parce qu'on a des ressources de remplissage à la fois dans des quartiers centraux et péricentraux encore, mais aussi, et on pense que pour la suite, ça sera surtout là que ça va se passer, dans les quartiers résidentiels de la deuxième couronne. Donc, on va retrouver soit des anciens noyaux villageois, et donc ce que vous voyez là à l'écran, donc c'est quand on remembre deux ou trois maisons qui sont un peu plus anciennes, un peu plus délabrées, et on démolit pour construire à la place un immeuble appartement. Mais souvent, ou presque toujours, ce sont des immeubles plutôt donc haut de gamme, ce qui peut générer donc une transformation assez importante du profil socio-économique des habitants. Mais on peut retrouver également la densification des villas. Donc les villas, ce sont les grandes maisons, les grandes bâtisses qui ont un grand terrain à l'arrière. Et on voit donc à la fois soit la démolition, soit la reconversion de la bâtisse en avant, mais aussi la construction d'un deuxième bâtiment à l'arrière. Les bâtiments élevés, donc le cas de la tour Upside, donc que je citais tout à l'heure, donc on n'a pas beaucoup fait d'immeubles élevés, donc c'est un débat en tout cas en région de Bruxelles-Capitale, mais en tout cas c'est de la première opération donc depuis 40 ans, et vous voyez qu'elle se trouve le long du canal. Donc c'est assez intéressant pour la skyline, donc le paysage évidemment ça change le paysage de la ville, mais on pourrait se poser encore les questions donc à l'échelle du piéton, donc l'échelle humaine justement, où la qualité de l'espace public perçu par le piéton n'est pas encore au rendez-vous par rapport aux ambiances qu'on retrouve dans les fascicules des promoteurs immobiliers. Alors, si on fait le bilan de cette production résidentielle de ces 20 dernières années, ce qu'on va constater, c'est que cette production, elle a surtout consolidé une organisation spatiale radioconcentrique. Donc, radioconcentrique, vous comprenez, c'est centre, première couronne, deuxième couronne. Donc grâce notamment aux différents programmes qui ont été menés par le pouvoir public, donc notamment les périmètres de développement renforcé du logement et de la rénovation. Par contre, l'intérêt, c'est dans les expérimentations de nouvelles formes urbaines associant de la mixité. Donc j'ai souvent cité le Jardin de la Couronne ou l'ancien hôpital militaire d'Ixelles. On a eu également donc, d'autres initiatives qui ont permis donc, d'expérimenter des cohabitations entre du logement et des fonctions, notamment des fonctions productives. Alors, si on fait un topo, c'est qu'on a changé, on est passé en tout cas dans les années 90 et des années 2000 à la mobilisation de parcelles à partir de l'urbanisation de lotissements. Donc, vous avez un lotissement et vous remplissez ça graduellement en fonction des opportunités, à une urbanisation de grande maille. Je pense que ce matin, on avait parlé de macro-lots, hein, donc, pour représenter en tout cas ce changement de paradigme, en tout cas ce changement de ressources. Alors, ce changement d'échelle exige bien évidemment des mécanismes différenciés de montage de projets, de financement de projets, mais aussi de maîtrise d'ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager pour le futur ? Donc, deuxième élément de contexte, je vous ai parlé de l'essor démographique. Deuxième élément, le plan régional de développement durable. Donc, instrument stratégique de planification. Depuis 2009, la région de Bruxelles-Capitale a lancé un vaste chantier de réflexion et d'élaboration de nouveaux plans régionaux de développement. Et là, ça ne suffira pas donc, de densifier, tout simplement. Hein, donc, il faut densifier, mais aussi faire évoluer le système de centralité. Et ce sera de là mon lien avec la question des pôles de développement. À la fois pour envisager la densification résidentielle, l'intensification des usages de proximité, parce qu'on comprend que quand on parle de résidentiel, ce n'est pas simplement du logement, ce sont les crèches, ce sont les équipements, ce sont les espaces publics qui vont avec. La restructuration des réseaux de transport, les équipements structurants métropolitains, donc Bruxelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ville-région multicapitale. Donc, elle a un certain besoin d'équipement métropolitain. Donc, il a été question de stades pour accueillir donc, des grands événements. Il a été question également de centres commerciaux, etc. Donc, toute une série d'équipements métropolitains qui prennent de la place, je dirais, et qui peuvent générer potentiellement des tensions avec un tissu résidentiel ou un tissu mixte existant. Et enfin, l'intégration urbaine de l'économie de la connaissance. Hein, donc, comme la plupart des villes européennes, dans la lancée en fait, du traité de Lisbonne en 2000, l'Europe donc, s'envisage en tout cas comme étant une union en fait, pour la question de l'économie de la connaissance. Et cela va se répercuter aussi au niveau des différentes régions, dont Bruxelles, donc la région de l'innovation. Donc, comment on intègre au niveau urbanistique des activités de l'économie de la connaissance, qui souvent on associe à des économies, je dirais, très, en tout cas des services, donc on est derrière un ordinateur seulement, mais ce n'est pas vrai. Donc il y a toute une chaîne, je dirais, donc, d'activités qui sont aussi plus productives et des fois plus difficiles à faire cohabiter avec le logement, mais tout à fait nécessaires à la question du développement urbain. Et la question de la dimension métropolitaine. Donc, dans la mesure où la région de Bruxelles-Capitale est restreinte à son territoire au niveau de ses compétences, mais qu'elle a des enjeux, évidemment, qui sont de l'ordre métropolitain, comme la question de l'internationalisation de son économie urbaine, l'essor démographique, donc comment gérer cet essor démographique, la création d'emplois, contrer le risque de pauvreté et de dualisation sociale et la question de la restructuration des transports, notamment. Donc la proposition est de passer de la structure radioconcentrique qui était présentée avant à une structure polycentrique ou multipolaire. Donc là, vous voyez la structure qui est proposée. Il faut savoir que cette structure n'est pas nouvelle, et encore bien, elle n'est pas nouvelle. Donc on reprend différents projets, différents axes et ce qu'on a qualifié, donc en tout cas les aménageurs, donc les pôles de développement, et qui en fait sont différents sites qui, dans ces 20 dernières années, ont été des sites stratégiques de développement et qui sont à différents stades de développement. Donc certains sont plus avancés dans la programmation, d'autres commencent à peine dans un processus également de collaboration avec la population et les forces vives de la région. Alors, quelles seront les difficultés de cela ? Donc, on a fait l'exercice de reprendre la structure qui est proposée par le plan régional de développement durable, que vous voyez en bleu clair, et on a superposé par-dessus la production résidentielle des 20 dernières années. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est dans quelle mesure cette production résidentielle a investi naturellement ou pas ces pôles de développement. Donc là, vous avez toute la production et doucement ou graduellement, je vais faire afficher donc la période la plus ancienne vers la plus nouvelle. Et vous allez voir que plus on avance dans le temps, plus on se rapproche, en tout cas, de ces axes de ces pôles. Donc, graduellement, on voit qu'il y a un réinvestissement. Donc, l'écart, je dirais, ce n'est pas encore beaucoup, mais l'écart entre la production à l'intérieur des axes et des pôles de développement et à l'extérieur se réduit avec le temps. Hein. On comprend aussi parce que c'est les ressources qui se raréfient. Donc, c'est les espaces qui restent encore pour le développer. Alors, nous avons également comparé le scénario tendanciel avec le scénario qui a été proposé par le plan régional de développement durable, qui avait fait l'exercice, en tout cas, de voir quelles étaient les ressources. Donc, sans se poser la question de « on a besoin d'autant de logements, il faut les mettre quelque part », quelles sont les ressources, donc qu'est-ce que le territoire offre en termes de ressources. Et donc, on a fait l'exercice de comparer à la fois la production tendancielle avec le scénario du PRDD, donc vous avez les pourcentages, et ce qu'on va observer entre la structure radioconcentrique et la structure multipolaire, c'est que pour la prochaine étape, on dépend surtout de la reconversion de grandes friches. C'est là que ça va se passer. Donc, notamment, le lien qu'on pourrait faire avec la question du grand projet urbain. La question de la reconversion des bâtiments aussi. Donc, on passe d'un 5% à un 24%. Et la reconversion des bâtiments, donc, elle passe également donc, par les différents bâtiments de bureaux avec toute la difficulté que cela implique en termes de reconversion. Le redéploiement de la mixité. Donc, dans la période précédente, on a surtout fait le redéploiement de la mixité dans des quartiers de bureaux. Pour la prochaine étape, on aura donc différentes parties de Bruxelles, donc le long du canal, où on a la possibilité d'intégrer le logement dans des anciens quartiers industriels, mais sans éradiquer forcément la fonction industrielle, mais comment on fait cohabiter. On mettra ça en parallèle avec les activités de l'économie de la connaissance. Et qu'est-ce que c'est l'économie de la connaissance? Ce sont des activités qui mobilisent des technologies d'information et de communication. Donc à Bruxelles, on a 4 clusters. Le cluster qui s'occupe donc de tout ce qui est donc biomédical, l'éco-construction, les technologies vertes et le IT software, donc tout ce qui est donc informatique. Et alors, ce qu'on a fait, on était voir où ces entreprises se trouvaient dans la ville. Et alors, ce qu'on peut constater, c'est que ça ne polarise pas beaucoup. Vous allez être d'accord avec moi, c'est très diffus. Et même si on compare par rapport aux sites universitaires qui sont représentés en orange, ça ne polarise pas beaucoup en termes d'activité. Alors, où je veux en venir ? C'est la difficulté, en fait, de pouvoir créer des pôles dans la mesure où le logement de plus en plus est en train d'investir ces pôles, mais que les activités économiques et surtout les activités de la nouvelle économie ont plutôt une géographie diffuse. Donc on ne saura pas faire un pôle sans centralité. Donc comment on va pouvoir, et la question est-ce que c'est pertinent et dans quelle mesure c'est pertinent, donc de pouvoir concentrer ces activités dans certains lieux spécifiques de la ville. Donc pour clôturer, donc les défis d'une spatialisation, donc le thème était un peu provocateur, je dirais, parce que ça reprend le slogan du programme européen, donc Horizon 2020, donc vers une Europe justement intelligente, inclusive et durable. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je voulais tenir mon propos. Donc d'une part, la production résidentielle ne peut être que le produit d'un processus d'encadrement, de densification du territoire. Pour que la production résidentielle puisse contribuer à la régénération urbaine, il faut qu'elle puisse être capable de faire évoluer les pôles, ou en tout cas les centres, le système de centralité de la ville, rompant avec un système qui est très radioconcentrique, donc centre-périphérie, vers une approche qui est plus multipolaire. Donc comment on redistribue la centralité de façon un peu plus, je ne dirais pas équitable, mais un peu plus distribuée sur le territoire. Deuxième question, spécialiser l'économie bruxelloise dans les secteurs de technologie verte et la construction durable. Donc la densification et la production résidentielle représentent une opportunité de spécialiser les métiers donc vers la question des technologies vertes et de la construction durable, mais aussi dans l'intégration des technologies d'information et de communication dans l'aménagement et l'entretien de ces pôles qui sont en projet. Alors, ceci est à mettre en relation avec une notion qui a été proposée dans le projet de PRDD, donc le plan régional de développement durable, la notion d'emploi endogène et d'emploi exogène. Donc, l'emploi endogène serait l'emploi local pour bâtir le pôle et entretenir, et la notion d'exogène, ça serait qu'une fois que le pôle est opérationnel, qu'il soit capable d'attirer des entreprises et attirer des ressources extérieures. Se pose la question de comment maintenir les ressources de l'emploi endogène dans la mesure où on sait que les types d'activités et de métiers sont très différents entre la construction et ensuite l'entretien. Troisième question, impliquer les acteurs des secteurs innovants dans le processus de densification et la production résidentielle. Donc c'est une véritable opportunité, c'est vraiment un véritable laboratoire d'expérimentation aussi pour les acteurs économiques. Et souvent, on va les retrouver plus en silo. Donc les activités économiques d'une part, les acteurs de l'innovation, mais aussi les acteurs du développement urbain. Donc comment on peut favoriser ce type d'expérimentation ? Les défis d'une spatialisation inclusive de la densité, donc une opportunité pour faire évoluer les formes de mixité urbaine, sociale également, mais sociale et fonctionnelle. Donc la consolidation de nouvelles centralités et pôles de développement issus de projets complexes en cours doit être une opportunité de fabriquer des nouvelles formes de mixité sociale et d'activité, surtout dans les espaces en friche où on peut encore faire, on a une plus grande latitude d'intervention. Reste néanmoins la gestion du risque de reproduire des dynamiques d'embourgeoisement ou de gentrification ou de clivage entre ce qui est fait à l'intérieur du pôle, qui est prioritaire, et ce qui se trouve juste à côté du pôle, qui ne fait pas partie. Surtout à l'ouest du canal, où nous avons donc des quartiers plus défavorisés. Le logement moyen comme outil d'expérimentation sociale et d'innovation urbanistique. Donc, le logement moyen devra continuer d'être un outil d'expérimentation et d'innovation sociale dans la mesure où il peut inspirer des archétypes pour la promotion immobilière privée. Donc, je vous rappelle que la promotion privée est quand même responsable de 80% de la production résidentielle. Mais aussi donc, les logements moyens qui visent les familles. Mais la force de travail créative, et là j'ai un petit point de réticence, c'est que souvent on associe la force de travail créative ou la classe créative, surtout en Amérique du Nord, à une couche très spécifique de la population, alors que nos recherches, quand on a étudié en tout cas les choix résidentiels qui étaient faits, on a vérifié que le pourcentage de personnes qui travaillent dans des secteurs innovants dans la ville-centre est le même que ceux qui habitent donc dans la périphérie, dans l'aire métropolitaine. On ne va pas appeler périphérie, mais dans l'aire métropolitaine. Donc, en tout cas, dans le cas bruxellois, je ne m'avance pas pour Montréal parce que je n'ai pas fait des recherches de même ordre pour ici, mais pour Bruxelles, en tout cas, on vérifie cette question-là et donc il n'y a pas une attractivité plus grande du centre. Voilà, donc ça peut remettre en question toute une série de principes ou d'a priori. Les défis d'une spatialisation durable de la densité, donc l'articulation urbanisme-transport, à partir de l'intensification de l'usage des réseaux de transport et la densification aux abords de gares, mais de réfléchir également qui on met à côté des gares et des stations de métro. Donc de réfléchir notamment à sécuriser le foncier, notamment pour des populations qui sont plus défavorisées et qui potentiellement sont plus dépendantes, en tout cas, de cette connectivité. Gérer la densification et la production résidentielle dans le temps. Donc ça, c'est la grande difficulté, le grand défi, c'est comment hiérarchiser les possibles. Donc dans un temps d'austérité et de manque de ressources, il ne suffit pas d'avoir une multiplicité de pôles, mais c'est quels sont les choix, quelles sont les priorités qu'on va mettre en avant et quels sont les critères pour définir les pôles qui vont être développés en premier, avec l'objectif évidemment que ce soit des leviers de développement. Au risque de voir la production résidentielle se développer avec la même tendance qu'on a vue dans les 20 dernières années. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que si on continue dans la même tendance, on n'arrivera pas ni quantitativement ni qualitativement. Alors, pour finaliser, donc en conclusion, la production résidentielle peut en effet être un puissant levier de régénération urbaine, à condition que cette production puisse promouvoir une spatialisation, je dirais, plus intelligente, inclusive et durable de la densité. Pour cela, ce n'est pas tant la question de la densification qui est importante, mais plutôt les interfaces entre les différents discours qui ont promu la densification dans le temps, donc c'est-à-dire le retour en ville, la reconstruction de la ville sur la ville, la transition énergétique, le capital humain et la métropolisation. Alors comment, en poursuivant donc les expérimentations et les innovations dans les projets urbains, mais aussi le rapprochement entre les acteurs économiques, donc les acteurs notamment des secteurs innovants, les promoteurs immobiliers, les acteurs du développement urbain, la société civile et la population de façon générale. Donc je pense que dans une certaine mesure, on peut trouver des échos, en tout cas, de tous ces éléments, tous ces défis, ces perspectives avec Montréal, et en espérant que, à la fois, le colloque et la conférence d'aujourd'hui soient le levier, en tout cas, l'amorce d'une continuité, d'une collaboration plus large avec une plateforme de recherche-action qui pourrait se mettre en place entre les chercheurs et les acteurs du développement urbain montréalais et bruxellois. Merci pour votre attention.
Alors, merci Priscilla. Il y a un micro dans le corridor pour ceux qui veulent poser des questions ou faire des commentaires. Je ne vois pas de personnes qui vont au micro. Yves casse la glace.
Oui, bonsoir. Vas-y. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous disiez un peu si il y a une incidence de la politique. On sait l'instabilité politique à Bruxelles, l'absence de gouvernement. On ne sait pas trop sur l'avenir. Vous en avez fait état un peu. Est-ce que ça a une incidence sur le taux de développement de la région? Et parce que selon la géographie aussi, je crois que la Flandre est plus vers le nord et les développements qu'on a vus étaient davantage vers le nord que vers le sud. Alors, est-ce qu'il y a une incidence politique quelconque? C'est par curiosité parce que...
Tout à fait. Alors, merci pour votre question. Je ne dirais pas qu'il y a une instabilité, mais une complexité. Donc une complexité politique, on va dire comme ça, donc avec différents paliers. Donc en même temps, c'est une contrainte. Donc le fait que la région bruxelloise, donc les compétences d'aménagement et de développement sont restreintes à son territoire. Mais je dirais que c'est aussi une opportunité parce qu'il faut faire plus sur moins de territoire. Donc, il faut réfléchir davantage à comment optimiser les ressources et à bien réfléchir les priorités qui vont être mises en place. Donc, d'une part, il y a cet élément. D'autre part, il y a évidemment la concurrence. Quand on parle de pôle de développement, la Flandre et la Wallonie ont ses propres stratégies de développement. On ne le voit pas sur la carte, mais juste au nord, à côté de la région, il y a l'aéroport, avec aussi un pôle d'emploi, mais qui souffre beaucoup aussi en termes de mètres carrés de vacances en fait, immobilières. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt une opportunité, en tout cas, de prendre en compte les enjeux métropolitains tout en devant travailler confiné sur son territoire. Peut-être un deuxième élément, il existe des collaborations ponctuelles qui commencent à se faire sur certaines thématiques avec l'aire métropolitaine, donc ce qu'on appelle la communauté métropolitaine, mais qui en fait n'est pas constituée, donc elle est créée, mais elle n'est pas constituée, elle n'est pas encore opérationnelle. Et je ne sais pas vous dire pour quand non plus, ça va dépendre de la conjoncture politique. Mais certains thèmes, comme la question du transport, donc c'est un thème qui est fédérateur, en tout cas, pour l'organisation du transport métropolitain et qui a une convergence des trois régions. Mais la question également des espaces de maillage vert et bleu. Donc il y a notamment toute une réflexion donc le long du canal. Le canal ne s'arrête pas à Bruxelles, évidemment. Il relie le bassin, l'ancien bassin minier donc à Charleroi et ça va jusqu'à la mer. Donc ça traverse toute la Belgique. Mais en fait, ça permet d'avoir une réflexion sur la question de la gestion de l'eau, la gestion des inondations, etc. Et on commence à voir émerger, et encore une fois, je citerai le travail que fait Bernard de Clèves avec son équipe à Lucel, avec un laboratoire métropolitain, où on essaye de réfléchir justement et mettre en réseau, à partir de la recherche, les trois régions, les acteurs des trois régions, sur cette thématique-là. Voilà, je vous en prie.
Tes commentaires ressemblent bien à ce qu'on vit à Montréal. Oui.
Bonjour.
Vous vous nommez?
Oui, mon nom est Gislain Frambois, je suis de Laval. Je voulais savoir la question. Je sais qu'il y a une particularité propre à Bruxelles, c'est au niveau de la mobilité. Ce qu'on a transport en commun, c'est le prêt métro. Pouvez-vous nous en dire plus un peu sur le prêt métro de Bruxelles?
J'étendrai peut-être la réflexion du pré-métro à la question de la restructuration du transport de façon générale. Donc, je citais ce matin la question de la collaboration entre Montréal et Bruxelles. Donc, Montréal, on arrive au 50e anniversaire du métro l'année prochaine, alors que Bruxelles, on est au 40e anniversaire. Et il y a une dynamique d'échange d'œuvres d'art entre les stations de métro comme un geste d'échange culturel. Donc, en effet, le pré-métro se trouve donc dans la partie centrale du réseau. Et donc, il y aurait donc aussi une intégration avec soit l'extension du réseau, mais aussi la question de l'RER que je n'ai pas vraiment abordée, mais qui a été abordée pendant le colloque. Donc, comment le RER, qui est une structure qui fédère tant bien que mal les trois régions, en tout cas parce que c'est nécessaire, mais comment on fait en sorte que le RER, qui est un dispositif métropolitain, soit aussi un dispositif de transport et de mobilité intra-urbaine. Benoît va compléter, qui est directeur de la planification à Bruxelles.
Oui, voilà. À propos du pré-métro, on essaye, comme dans beaucoup d'autres villes, de calibrer l'offre de transport par rapport à la masse, évidemment, de clientèle à déplacer. Donc, le train, c'est un transport de masse important. Ensuite, il y a le métro et puis ensuite le tram. Donc, le tram qui circule maintenant en pré-métro dans l'axe nord-sud, il arrive à transporter de l'ordre de 7000 passagers à l'heure. Et on voit que c'est insuffisant. Donc, il y a un projet pour en faire un axe de métro. Parce que les rames de métro, c'est au moins le double, c'est pas le triple d'une rame de tram. La deuxième opération qui va suivre, c'est l'automatisation du métro. Donc pour le moment, les lignes de métro est-ouest fonctionnent avec des conducteurs. Donc il y a une fréquence qui ne peut pas descendre en dessous de 1 minute et demie, donc 90 secondes, entre deux rames. 3 minutes entre deux rames. Avec l'automatisation, comme c'est le cas à Lille avec le Val, donc où vous avez des portes automatiques et les trains circulent sans chauffeur, on peut doubler la capacité. Donc c'est vraiment énorme l'importance que ça peut avoir.
Oui.
Jacques Landry. Moi, dans tous les exposés à peu près qu'on a eu aujourd'hui, il y a comme une constance dans la demande de logement, mais on ne voit pas du tout l'évolution démographique. C'est qu'à Montréal, les ménages diminuent. Donc, on a une croissance de logement, mais on n'a pas nécessairement une croissance de population. En tout cas, ça a l'air indépendant. Ce qui a aussi des impacts sur tout le développement, par exemple. Si vous avez plus de logements dans un quartier, mais qu'ils ont moins d'habitants, le nombre de logements qu'on a besoin pour faire vivre un supermarché change de façon considérable. L'autre chose qui est complètement ignorée, c'est qu'il semble que le revenu est le seul déterminant de où on veut vivre. Donc, la demande a l'air d'être essentiellement fonction de où le logement va être construit. Il peut être construit n'importe où, on trouvera quelqu'un pour l'habiter. On ne se place pas dans la perspective de où est-ce que les gens veulent aller. Est-ce qu'ils préfèrent s'installer plus près, par exemple, d'une université de dans leur communauté linguistique? Ou c'est comme si la demande n'était pas considérée.
Alors, je dirais... Comment? La démographie. Donc la démographie, je dirais, d'une part, il y a une croissance qui se fait pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas une prévision, on la constate, on la vit. Donc je disais tout à l'heure, donc 170 000 habitants, donc c'est quand même pas mal par rapport à une ville de 1,1 million d'habitants. D'autre part, c'est la question de l'inadéquation. Donc vous parlez de la question du logement, donc peut-être l'inadéquation entre l'offre du logement et le type de ménage qui va habiter.
Et l'évolution, c'est-à-dire que si vous pouvez avoir une demande qui actuellement vient du fait qu'il y a des gens qui se marient et qui demandent un logement, et qui plus tard sera une demande de logement parce que les gens vont se séparer ou vont... Comment évolue le marché de cette demande-là n'a pas l'air d'être prise en compte. C'est comme si on avait une demande d'augmentation de logement, et ce qui fait que la taille des logements n'est pas non plus considérée dans ça.
Je dirais qu'elle est considérée par le marché dans la mesure où à Bruxelles, on est surtout dans des logements de deux chambres. Donc, on a même difficile à trouver soit une ou trois chambres. C'est vraiment la majorité de la production. Et deuxièmement, donc en termes d'occupation, c'est des ménages donc, en moyenne de 2,1. Hein, on peut avoir deux personnes par ménage. Ensuite, comme la production est relativement distribuée actuellement donc, sur le territoire de façon... je dirais plus ou moins isotrope. Dès que vous avez la connectivité sur les transports et que ça vous permet de circuler et d'avoir quelques équipements de proximité, ça vous permet donc de vivre un peu n'importe où, si vous avez des moyens, évidemment. Si vous n'avez pas des moyens, alors là, c'est la deuxième question, c'est la question de la production de logement social, donc pas simplement logement famille ou isolé, ou en tout cas l'évolution du profil démographique, mais c'est la question de où on construit du logement social. Et là, c'est l'initiative du public. Est-ce qu'on essaye aussi de faire en sorte que la production du logement social soit diffuse sur le territoire, c'est-à-dire que chaque commune, on l'a cité ce matin, chaque commune devrait donc avoir en charge, en tout cas, un parc de logement social de l'ordre de 20%. Ou bien on concentre le logement social où on en a besoin, c'est-à-dire où on a des territoires qui sont déjà défavorisés. C'est un débat en tout cas qui est très présent à Bruxelles et qui, dans le plan logement, donc je ne l'ai pas cité, donc c'était sur une des diapositives, donc le plan logement, c'était la volonté en tout cas de produire 5000 logements, dont 3500 logements, si je me rappelle bien, donc conventionnés donc, et 1500 logements sociaux ou vice-versa. Là, le pari qui avait été fait, c'est d'essayer de pouvoir distribuer cette production de logements sociaux sur le territoire au lieu de la concentrer.
Alors, est-ce qu'il reste une dernière question et puis après, vous serez invité à continuer les discussions avec la conférencière autour d'un verre?
Mon nom est Pascal Roberge. Moi aussi, c'est sur la démographie, mais c'est sur le vieillissement de la population. Au Québec, un des phénomènes qu'on observe, c'est qu'il y a la construction, par exemple, d'habitats pour personnes plus âgées qui quittent des pavillons en périphérie pour gagner, en fait, le centre. Ça ne semble pas être le cas du côté de Bruxelles. Pouvez-vous m'éclairer là-dessus, s'il vous plaît?
Pas le cas de la région de Bruxelles-Capitale. Il faut faire cette distinction également. C'est-à-dire dans la région de Bruxelles-Capitale, on a une population qui est assez jeune. Et le problème, présentement, c'est aussi l'adéquation. Donc, tous les équipements qui sont liés à la jeunesse, à la fois la formation, hein, donc les écoles. On a, je pense qu'au Québec aussi, en tout cas à Montréal, c'est une problématique. Donc, la question de la suroccupation des écoles, des équipements scolaires de façon générale. Et la question de la formation donc, de ces jeunes, notamment pour qu'on puisse avoir une adéquation entre le type de formation et les emplois qui sont développés à Bruxelles, tout en sachant qu'on a une certaine dualité. Donc, d'une part, vous avez des emplois qui sont très qualifiés, liés à la présence des institutions internationales, hein, que ce soit l'Europe ou l'OTAN ou autres sièges sociaux. Et d'autre part, une population donc immigrée, mais aussi plus défavorisée, où la qualification n'est pas toujours à niveau, en tout cas pour occuper ces fonctions-là. Donc, comment on essaie de diversifier, en tout cas, les activités. Voilà, je ne sais pas si ça répond.
Merci.
Alors, merci. Juste, je vais rajouter quelque chose sur la question que vous posiez. La dernière personne qui a posé une question, quand on fait la comparaison avec Montréal et on comprend que la région de Bruxelles n'a pas la même distribution de population actuellement, sans doute, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'activités de haut niveau ou d'activités européennes ou d'activités internationales ou qui explique qu'on n'a pas la même configuration qu'ici, ou, je vais juste rappeler deux statistiques, cette année, on a dans la région métropolitaine de Montréal 260 000 empty nesters. Votre question, là, ça portait sur les maisons unifamiliales. 260 000 empty nesters, les gens ont plus de 65 ans cette année. Puis cette année, il y a plus de gens de 65 ans que de gens de moins de 35 ans qui peuvent accéder à la propriété de maison familiale. Donc, on a un bassin, ici à Montréal, propice pour la perte de valeur des maisons unifamiliales. Et si on était sage, on n'en construirait plus du tout, parce qu'on va avoir des problèmes pour les remplir. Puis l'autre bout de la question, c'est que, puis c'est lié avec la question précédente, c'est qu'il y a effectivement un lien entre... Il faut voir évoluer ce qu'on appelle le nombre de personnes par logement avec la production de logements. Parce que la tendance en ce moment, qui cache un phénomène, c'est l'augmentation continue de personnes seules qui, avec le vieillissement, va encore plus continuer. Puis ça crée artificiellement un marché d'appartements qui sont des unités de logement plus petites. Et la question qu'elle posait tout à l'heure, quand c'est dans un quartier maintenant, ben ça ne fait pas vivre de la même façon le supermarché ou le coiffeur. Ou... Donc, c'est toutes des choses qu'il faut analyser soigneusement et qu'on sous-estime dans la planification urbaine, notamment en ce moment. Alors, je me suis permis de faire un petit lien avec Montréal. Puis, on vous invite à prendre un petit verre et puis à continuer la discussion avec nos invités de Bruxelles et avec Priscilla. Merci beaucoup. Et j'ai oublié de dire que nous avons le livre de Priscilla qui est en vente au fond de la salle.